Bonsoir. Salut tout le monde. Vous écoutez La Courte Échelle, une émission de tous les dimanches soirs sur 88.4 Radio Galère. Une émission anticarcérale pour parler d'enfermement dans les tôles, dans les CRA, en garde-ave, dans les HP. Et voilà. Et on a une émission, on est à deux ce soir. Il y a Charlie qui est là. Et il y a moi, Louise. Oh yeah. Et la technique de Radio Galère. Je vais rappeler le numéro de téléphone parce que le fixe de Galère marche maintenant. C'est le 04 91 08 28 10. Pour nous écrire, on adore recevoir du courrier, on y répond. Et si c'est précisé, on le lit à l'antenne sans problème. C'est Friche de la Belle de Mai, Radio Galère, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Il faut préciser que c'est pour La Courte Échelle. Et sinon, on a un mail pour celles qui peuvent. C'est la-courte-échelle@riseup.net. Ce soir, on va commencer par vous lire une lettre de Fabrice.
Oui. Et du coup, pour vous rappeler, Fabrice, c'est un prisonnier dont on a déjà lu des lettres dans plusieurs émissions de La Courte Échelle. Et c'est un prisonnier guadeloupéen qui est enfermé depuis 2010 et il a été déporté en métropole en 2011. Il vit donc une double peine. C'est le cas pour les prisonniers qui sont transférés depuis les territoires colonisés qui se trouvent très loin de leurs proches. On avait lu l'un de ses courriers il y a quelques semaines et il demandait du soutien face aux injures et aux provocations racistes qu'il vivait à Vendin-le-Vieil. L'idée, c'était d'envoyer des lettres à la direction de l'administration pénitentiaire pour demander son transfert. Il a été transféré, mais sa situation reste compliquée. Et on va vous lire du coup sa lettre.
Elle date du 12 mai 2025, au centre pénitentiaire de Valence. Là, il est 2h10 du matin, et je pense à ma vie, à mes douleurs et à mes souffrances depuis que je suis en prison en France et que la justice couvre tous ces matons dans leurs méfaits. Quand j'ai compris que la vie serait dure pour moi, c'est quand j'ai vu ma mère mourir de jour en jour pendant 2 ans, de 6 ans à 8 ans, à l'hôpital d'un cancer des os. Les 6 premiers mois, elle commençait à ne pas trop manger, elle maigrissait. Les 6 mois, elle perdait ses dents et ses cheveux. Et elle sentait mauvais comme un cadavre en décomposition. On mettait des masques pour la voir. Les derniers 6 mois, elle ne parlait plus parce que le cancer avait atteint la gorge. Et le 3 novembre 1989, à 22h30, on nous a dit qu'elle était morte. Et ça m'a fait mal. Après, j'ai passé 5 ans à la DAS, dans les pires humiliations et tortures par des éducateurs et des éducatrices qui nous punissaient en nous mettant à genoux, tout nus, dans le gravier et dans chaque main, un dictionnaire. Et quand on baissait les bras, il nous frappait, moi et mon frère Eddy. À 13 ans, on nous a placés dans une famille d'accueil beaucoup plus violente. On était leurs petits esclaves, on faisait tout. La vaisselle, nettoyer la maison, on tondait le gazon, on lavait les voitures, et après on faisait nos leçons après l'école. Ils nous frappaient avec des lianes, sache-le. À 16 ans, je suis rentrée en prison. Et voilà mon enfance. Là, j'ai déjà passé 28 ans derrière les barreaux depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 44 ans pour des braquages, violences avec armes et prise d'otages, 3. Et une tentative d'évasion en Guadeloupe pour mon frère Eddy. La police m'a donné une balle à l'épaule gauche et depuis le 8 août 2011, on m'a déporté en prison en France, loin de ma famille, de ma culture et de mes origines. Là, mon calvaire a commencé, j'ai passé 10 ans en isolement et 3 ans en quartier fermé, devant dans le veil, à être humilié et torturé par des matons casqués avec des boucliers, menotté à tous mes déplacements hors de cellule et même traité de sale macaque et de sale nègre et que je pue. Mais le pire, c'est le 16 juin 2017, à 16h47, j'ai bloqué la douche pour un transfert en Guadeloupe, à la centrale de Saint-Maur. Les matons et les hérisses ont failli me tuer avec 2 grenades DBD. Et là, je suis handicapée, sourde de l'oreille gauche et je porte un appareil auditif à la droite. Mais le pire, c'est que ces bâtards ont déposé plainte contre moi pour une tentative d'assassinat. Et là, je me dis que vraiment, tous les Noirs d'Outre-mer, des Outre-mer et des Guadeloupéens On n'a pas les mêmes droits que les autres détenus en France. Et si vous voulez savoir, je ne crois pas que je sortirai vivant de tout ça, sachez-le. C'est grâce à la boxe thaï que je pratique depuis l'âge de 8 ans que j'ai pu tenir. Si jamais des gens veulent m'écrire, donnez-leur mon adresse.
Du coup, bah, l'aide compliquée. On envoie plein de soutien à Fabrice, c'est justement une façon de soutenir les prisonniers. C'est de leur écrire. Et si jamais vous avez envie de lui envoyer de la force, on vous fera passer son contact. N'hésitez pas à nous demander. Ouais.
Ouais. Et merci aux personnes qui ont relayé ces lettres. Enfin. Ouais. Est-ce que.
Ce qu'on lui souhaiterait, c'est qu'il puisse retourner en Guadeloupe auprès de ses proches aussi. On vous donnera des nouvelles de Fabrice et il tenait à ce que cette lettre soit lue à le plus d'émissions de radio possible pour qu'on on soit au courant de sa situation. Voilà. Pour la suite.
On peut continuer à donner des nouvelles de...
Des nouvelles de l'intérieur. Ouais. Des nouvelles de l'intérieur. Moi, je voulais aussi parler d'un texte de Vivi. En fait, Vivi qui tient à dire et à redire que il n'y a pas de réinsertion, il n'y a pas d'assistante sociale, et qu'en fait les personnes sortent des Baumettes sans logement et sans aucune réinsertion. Et je pense que les Baumettes n'est pas exception. Aussi que l'ASPIP refuse de faire des démarches et que tout le monde sort sans démarche de réinsertion. Ça n'existe pas. Qu'il y a même de l'incitation à la fraude dans les transports parce que tu sors sans ticket pour le bus, sans thunes pour ça. Et tout ça sans parler des violences du personnel pénitentiaire. Du coup, des choses importantes à rappeler et qu'on fera passer au maximum de personnes. Je voulais aussi faire un coup de gueule sur toujours les Baumettes qui promettent 90 jours de remise de peine, mais en fait, c'est 80 jours. N'importe quoi. Et aussi sur des doubles parloirs qui sont acceptés plusieurs heures après le dit parloir, qui en fait, du coup, a été simple. Vraiment. On se fout de notre gueule. Et je voulais aussi faire passer un petit message. S'il y a des matons qui nous écoutent, eh ben, vous savez, les amis imaginaires étaient hyper contentes de voir Zouzou en perme parce que hier, on a passé super moment ensemble. Et ça, c'était trop chambé. Voilà. Plein de force à vous et
les détenus, pas les matons,
ouais.
Évidemment.
Ah mais grave, plein de force les prisonniers et prisonnières évidemment.
Changer de métier.
Démissionner. Cassez-vous. Et on va du coup faire une petite dédicace aux copines et à toutes les personnes qui nous écoutent avec SS de Sosomanes.
On se retrouve tout de suite.
Les Baumettes, les Baumettes, lune. Le Ponté, la Farlette, Corba. Nice, Montpellier, toutes les prisons de France.
Faites péter.
Je suis libérable, c'est ta soeur maintenant qui fait des flexions. Sois raisonnable, la tôle n'est pas encore à ton daron. Ce morceau c'est pour les SS qui font les choses en déten. Mon Dieu, si je te croise dans ma tête, ça risquerait de faire bang. SS, t'as pas honte, tu bouffes la gamelle. J'ai ma feuille de compte, et moi les 26 dans les semelles. La tôle une passoire, bientôt vous aussi. Dans la bouche pas de rasoir, j'ai un 12e pote de Russie. Promenade, parloir, garage, flexion. Drapeau, mission, la tôle elle est sous tension. Coursive, prétoire, refus, permission. Tchana, traction, la tôle elle est sous tension. SS, ouvre la porte, SS, tourne la clé. 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 Ce matin c'est une pute qu'il est bon qu'à regarder des bits. Son métier c'est de la merde et dans son compte n'a pas de fric. Poto réveille-toi, change de boulot. J'suis en féfé au check-up, j'bois du dompé au boulot. J'reçois ta paye en pécule, toute la journée je touche tes testicules. J'suis mieux que toi en cellule, à une ASS je fais prendre la pilule. Manesse au promette, ma peine sur un pied. Vous avez pris perpète, j'ai fait des billets. Promenade, parloir, garage, flexion, travaux, mission. La tôle elle est sous tension. Coursive, prétoire, refus, permission. Tchana, traction, la tôle elle est sous tension. SS, ouvre la porte, SS, tourne la clé. 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 Surveillant, surveillant s'il vous plaît, à la V06 s'il vous plaît. Ah vous voulez pas venir? Ah c'est comme ça. Surveillant, et va niquer tes morts.
Alors
dédicace à tout le monde. Et du coup, on est toujours là.
Toujours sur la courte échelle.
88.4, tous les dimanches de 19h à 20h.
88.4 FM.
On bouge pas.
Contre la tôle. Contre toutes les tôles. Et on avait envie de continuer l'émission en parlant de ce qui s'est passé les derniers jours à Marseille et dans plein d'autres villes qui a été appelée Opération Place Nette. Étranger. Et en fait, il s'agit clairement de rafles qu'il y a eu dans les villes où ce sont les personnes non blanches qui sont visées. Du coup, des personnes qui se font courser, contrôler, violenter, qui se sont fait avec une demande de déliation de la part de, d'autres personnes. Et du coup, il y a des messages de solidarité qui sont passés pour s'organiser et pour riposter. Y a des personnes à Marseille, mais aussi à Lyon, qui sont allées dans les gares pour voir, prévenir, soutenir. Y a eu des conseils qui ont été donnés, comme notamment crier pour que les personnes puissent partir, occuper les keufs, ça aussi, parce qu'en fait, on est tous et toutes responsables si on ne fait rien. Et en fait, cette opération est vendue comme une tentative de dégager les points de deal, mais on sait bien, comme on l'a déjà vu les derniers mois, que c'est la répression envers les personnes précaires, les personnes qui sont à la rue, et les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Voilà. Je crois que j'avais d'autres petits conseils que je voulais lire. Y avait des messages qui tournaient, du coup, dans beaucoup de langues différentes, sur les réseaux sociaux, sur des boucles, sur Signal et d'autres, et que face aux menaces d'expulsion de Retailleau et ses keufs, en fait, tout le monde est concerné dans les transports, dans les gares. Et du coup, le message disait que si vous êtes sans papier, essayez de ne pas prendre sans papier français. Essayez de ne pas prendre les transports seuls, de prévenir vos proches, les collectifs, les associations, les syndicats. Toujours avoir un titre de transport sur soi. Et pour toutes les personnes, pas laisser faire les contrôles. Empêcher les interpellations, alerter autour de nous, filmer aussi. Tout ça, qu'on soit dans les bus, dans les gares, dans les métros, dans les trains, qu'on soit de passage ou qu'on soit travailleuse. Du coup, solidarité oblige, antiraciste. Voilà, petit mot là-dessus. Force à toutes les personnes qui subissent déjà la répression.
Ouais, grave.
Petite brève.
Ouais, un petit agenda, tant qu'à faire qu'on est dans les nouvelles locales. Il y a un rassemblement à Marseille le 27 juin prochain à 20h, donc contre la loi Attal qui vise à rapprocher le traitement de la jeunesse avec celui des adultes. Et il y aura une présentation de la campagne contre la criminalisation des jeunes, des quartiers populaires. J'imagine que Ce sera dansé toute une soirée. Et donc, c'est rendez-vous à 20h. C'est au local Ghassan Kanafi. Kanafani, pardon. Et 23 rue de Crimée. Donc, à la Belle de Mai, 13003 Marseille. Il y a aussi un événement qui est pas, en fait, qui n'est pas si local que ça, qui se passe dans le sud, mais c'est le sud-ouest, dédicace à tout le Tarn et autres, autres régions de France qu'on chérit tant. Hélas, il y en a un qui est passé, mais il y en a un autre qui sera demain ou après-demain, c'est-à-dire le 23, donc c'est demain. Donc on avait envie de vous lire leur communiqué qui est plutôt chambé et ça soude les rangs, donc je vais le lire quand même. Il y a deux soirées contre la loi de narcotrafic et ce monde d'enfermement. Le 29 avril 2025, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi de narcotrafic portée par l'infernal binôme sécuritaire Darmanin Retailleau. En gros, le lundi 23 juin, à l'impasse, que je vais trouver l'adresse d'ici peu. Bon, à l'impasse, on propose de parler des résistances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces quartiers de haute sécurité avec une présentation sur la lutte contre les QHS en France, un film de 25 minutes sur la résistance à ceux-ci en Belgique aussi, une présentation sur le 41 bis en Italie et un point sur le régime des FIS en Espagne et les luttes qui ont été menées contre ça. Ce sera en mode auberge espagnole et Nick Darmanin et sa loi et le reste du vieux monde, crève l'atoll et tous les lieux d'enfermement, vive la belle et la jolie révolte. Liberté pour tous. L'impasse, j'ai pas trouvé le lieu. Je vais le trouver d'ici la fin de l'émission. Impasse de la Pujade, numéro 1, c'est derrière la gare, Matabio. Voilà. Maintenant qu'on a fait les nouvelles choisies.
C'est fini pour les brèves ?
C'est fini pour les brèves.
Ok, bah. Moi, j'avais envie de revenir sur une soirée qu'il y a eu à Marseille le 19 juin, du coup cette semaine. C'était une soirée d'information et de soutien à la résistance de prisonnières palestiniennes. Et durant cette soirée, il y a deux prisonnières palestiniennes qui ont été libérées aujourd'hui, enfin qui ont été libérées depuis, qui ont pu nous appeler en direct. J'avais envie d'en parler à cette émission parce que c'était assez inspirant et que c'était chambé d'avoir leur parole directe. Du coup, c'était des prisonnières qui étaient enfermées dans la prison de Daïman, une prison qui est située dans le nord de la Palestine de 48, pas loin de Haïfa. La Palestine de 48, ça correspond au territoire occupé par Israël depuis 48. Et c'est une prison où sont enfermées les prisonnières palestiniennes. Une prison notamment où les prisonnières, elles s'organisent entre elles et elles proposent des formations à l'intérieur, dans la tôle, de l'alphabétisation à un niveau universitaire. Il y a aussi un tribunal interne et une organisation tout entière en fait qui existe en dehors de l'administration pénitentiaire. Enfin, c'est des choses assez inspirantes. Et qui existent, qui ont existé. Et avant de parler plus précisément de l'échange qu'il y a eu avec les prisonnières, je voulais donner un petit bout de contexte, mais juste un endroit, parce que c'est vaste, en fait, de recontextualiser toutes ces situations. Mais du coup, pour dire en fait que les prisonnières, elles représentent l'ensemble de la société. Et ça, notamment depuis la première intifada. Et ça, parce que les prisonnières, elles ont des formes d'engagement très diverses, que ce soit au niveau culturel comme politique. Et du coup, il y a des prisonnières journalistes, des blogueuses, des universitaires, des avocates, des étudiantes. Mais il y a eu aussi des mères, des sœurs, des filles de militants, parce que violence patriarcale de plus. Il y a eu cette idée que les militants palestiniens se rendraient forcément en sachant que leurs proches étaient enfermés. Et du coup, ça c'était sans compter à l'époque quand la radio était encore autorisée et que c'était un moyen de communication entre l'intérieur et l'extérieur, de ces daronnes qui se sont adressées à leurs fils en disant qu'elles ne les reconnaîtraient pas s'ils se rendaient. Et du coup, j'avais envie de raconter ce bout-là, parce que je trouvais ça grave puissant. Mais du coup, aujourd'hui, malheureusement, en fait, c'est complètement hermétique entre l'intérieur et l'extérieur, et la radio, c'est plus. Et du coup, il y a l'une des prisonnières qu'on a entendue, qui est libre grâce à la résistance qu'il y a eu et à l'échange qui a eu lieu en novembre entre prisonnières. Et elle était à l'isolement. Et du coup, elle nous disait que c'était l'étape la plus dure parce qu'elle ne pouvait pas retrouver d'autres camarades. Mais malgré les tortures directes contre elle, qui sont devenues invivables depuis le 7 octobre, elle a trouvé la force de résister, et même si elle prenait les décisions seule face à la répression. Elle nous a raconté qu'elle utilisait beaucoup de sarcasme et que son rire déstabilisait grave les matons. Elle a aussi réussi à renverser l'humiliation de la fouille à nu, et de faire en sorte que ce soit la matone qui se sente humiliée de devoir faire ça et pas elle. Elle refusait aussi de se lever pour le comptage sa lenteur, ça décourageait les soldats, les matons, qui du coup la comptaient pas. Et elle faisait aussi elle a aussi fait des crèves de la faim, et même si personne pouvait le relayer parce que du coup les liens entre l'intérieur et l'extérieur sont complètement coupés, bah, elle a lutté avec son corps selon ses moyens et ses possibilités. Et du coup, il y a une autre prisonnière palestinienne qui a échangé avec nous, qui est libre aussi aujourd'hui. Et elle nous a raconté qu'elle est journaliste, chanteuse, mais aussi conteuse. Et pour elle, le plus dur, ça a été l'enfermement de son mari. Parce que du coup, elle a aussi vécu la prison en étant proche. Et ça, c'était le plus dur parce qu'elle est restée sans nouvelles durant son interrogatoire qui a été... particulièrement violent, avec des tortures très dures, car c'était un militant. Et avant la guerre, elle devait faire 8 heures de route aller-retour pour seulement 40 minutes de visite. C'était avant que le lien entre intérieur et extérieur soit totalement coupé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni radio, ni courrier, ni parloir. Ça, c'était ce qui a été le plus dur pour elle. Et j'arrive. Aussi pour dire que du coup, elle n'était pas à l'isolement. Et en fait, les prisonnières de Gaza, les prisonnières de guerre, elles sont séparées dans leurs cellules. Et elles ont 15 minutes de promenade seulement au lieu d'une heure. Et ni les visites des avocats, ça aussi, c'est interdit. Et du coup, sans parler des violences des matons. Même si ces prisonnières, elles sont particulièrement surveillées et que c'est difficile de se mettre en lien, elle a parlé d'espoir. Elle a parlé de ces moments où c'était la fête dans la prison, comme si c'était un mariage, quand il y avait des bonnes nouvelles. Elle nous a raconté de ce moment de fête, le jour de l'anniversaire d'un enfant d'une prisonnière. Ce jour-là, parce qu'elles ont appris que son enfant était encore en vie. Et que c'était un grand moment de joie partagée. Elle nous a aussi parlé du jour de la Eid, où elles ont toutes mis leurs plus beaux habits, ceux qui étaient prévus pour leur sortie, pour leur libération. Elle nous a dit qu'il y avait même des recettes dans la prison de Damon qui étaient utilisées pour l'Eid, pour les anniversaires, et qu'il y avait des chants à travers la petite ouverture de leur porte, qu'elle avait commencé à chanter comme elle était chanteuse, et que petit à petit, de plus en plus de voix, de belles voix se sont fait entendre. Et elle a terminé son échange en disant que même si il y a eu de la répression et que les ouvertures des portes elles ont été bouchées et que les beaux habits ont été confisqués, elle est sûre que ça continue de chanter dans la prison depuis qu'elle est sortie. On aurait bien aimé vous passer leurs paroles en direct. Coup là, c'est dommage que de vous le retranscrire, mais. Elle existe même si c'est avec intermédiaire. Pour finir, je voulais partager d'autres de leurs mots. C'est important pour elle qu'il y ait pas qu'en fait il faut pas idéaliser ni ultra victimiser les prisonnières de Gaza, et qu'en fait il y a beaucoup de femmes dont on n'a encore aucune information, et qu'il faut les chercher, et que les prisonnières de Damon c'est les plus connues. Une de ces prisonnières qui a échangé avec nous disait qu'il fallait des réactions, en fait, car Israël se soumet à aucune règle et qu'on ne peut pas parler de liberté et de droits des femmes quand on laisse torturer des centaines de femmes à Gaza sans aucune impunité, sans rien faire. Voilà. Et du coup, bah, on va terminer en vous présentant en fait, le collectif qu'a organisé cette soirée.
Ouais. En parlant de, bah, du coup, de s'emparer un peu de toute cette documentation, en fait, la campagne Dismantle Diamond, qui a organisé la formation, c'est une campagne de soutien aux prisonnières de la prison de Diamond. Elle s'est structurée et elle est née le 3 août dernier, dans une urgence de visibiliser les conditions de vie quand même hardcore, sanitaires, des interdictions de visite des proches et des avocats. En tout cas, elle fait entre autres des portraits de prisonnières. Elle porte la parole et les lettres. En fait, les lettres peuvent être envoyées. Il y a des ateliers d'écriture organisés par ces personnes. Les lettres, elles seront pas reçues par les prisonnières en elles-mêmes parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas possibilité de passer du courrier, mais par contre, elles peuvent être envoyées aux familles. Et alors, d'abord, c'est un soutien à la famille. Et en plus, quand elles sortiront, enfin, en tout cas, elles auront accès, elles pourront les lire.
Alors, Libération, ouais.
Oui, grave. Et qu'est-ce qu'on veut dire d'autre sur cette campagne ? Ben, en fait, y a quand même, ils ont des réseaux ou des sites qui permettraient de s'approprier ces outils-là, donc des infokiosques, il y a des réseaux qui sont Instagram, Dismantle Diamond, et donc c'est Dismantle-6, donc -, et DAM de Diamond. Il y a des sites de samindoun.net, samindoun, ça s'écrit samindoun.net, et Adamir, ADAME2R.org. Et là, j'imagine qu'il y a le contact de ces personnes-là pour pouvoir avoir de la documentation ou avoir accès à des portraits pour alimenter soit des infokiosques, soit coller des portraits dans la ville, faire des posts sur les réseaux, enfin mettre un visage sur ces femmes-là qui fait partie de visibiliser leur discours
et raconter leur histoire.
Ouais. Et ben voilà, on a fait un petit tour de ça.
Mais justement, en parlant de leur histoire, on va vous lire un portrait, celui de Chatella.
Je le cherche, il est là. Il est donc disponible sur le site de Dinguerie.
C'est Dismantle Diamond qui l'a
communiqué.
Publié.
Les synonymes. C'est Chatella Abou Ayad qui entre dans sa 10e année dans les prisons sionistes. Initialement, le texte a été publié sur le compte Instagram de Dismantle Diamond le 3/04/2025, donc il est accessible dans les posts de l'Instagram de Dismantle Diamond. Le 3 avril 2025, Chatella Abou Ayad est entré dans sa 10e année d'incarcération dans les prisons sionistes. Depuis son arrestation en 2016, deux accords d'échange de prisonnières ont eu lieu, en novembre 2023 et en janvier 2025, sans qu'elle soit libérée. En mars 2023, dans une interview, sa mère a confié « Je ne sais pas quoi dire, nos cœurs souffrent à chaque minute de la séparation de notre fille. Et depuis peu, nous pouvons entendre sa voix au téléphone, ce qui rend nos journées et nos heures loin d'elle plus faciles à supporter. » Mais depuis le début de l'offensive génocidaire sioniste contre les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza, les prisonnières et prisonniers se sont vus retirer les droits de parler au téléphone à leurs proches. Ils et elles sont privés de tout contact avec l'extérieur, de toutes sortes de produits de première nécessité et de toute visite, à l'exception de celle des avocates. Chatella est née en 1993 à Kafr Qassem, une ville située dans les territoires palestiniens colonisés en 1948. Issue d'une famille de 9 enfants, elle est la plus jeune de la fratrie. Le jour de son arrestation, elle avait préparé le déjeuner pour son frère avant de partir, comme à son habitude. Elle était en première année de psychologie à l'université ouverte de Tel Aviv et avait de bonnes notes. Après son arrestation, son nom a été effacé de la base de données du ministère sioniste de l'éducation et des dossiers de l'université. Le 3 avril 2016, Chatella a été arrêté dans la zone industrielle de Ras El Ain, accusé par des soldats d'avoir agressé un colon, une femme selon certains. Elle aurait repoussé seul un groupe de colons qui tentait de la maîtriser avant de se rendre aux forces d'occupation qui l'encerclaient. 5 mois plus tôt, son frère avait été poignardé à la jambe par des colons. Toute sa famille avait été profondément traumatisée par cette attaque. Elle a été condamnée à 16 ans de prison et à une amende de 100 000 shekels par les tribunaux illégitimes sionistes. Au cours des 10 dernières années, la seule autre prisonnière à avoir été condamnée à une peine aussi lourde est Shuruk Dwayat, qui a été libérée en novembre 2023 dans l'accord d'échange arraché par la résistance et la fière et inébranlable population de Gaza. L'administration coloniale de la prison décide fréquemment d'utiliser son amende comme excuse pour confisquer l'argent que lui envoient ses proches, l'empêchant ainsi de cantiner. Pendant plusieurs mois, elle a été empêchée de voir sa famille à plusieurs reprises. Même à son arrestation, Chatella a continué d'affronter l'occupation. Lors de son procès, malgré l'interdiction, elle a dissimulé son visage derrière son voile. Certaines sources indiquent qu'elle a refusé de demander que son affaire soit transformée en une affaire civile et non plus en affaire de sécurité. Ce qui aurait pu lui permettre d'obtenir une peine moins lourde. Elle aurait justifié sa décision au nom de l'unité du peuple palestinien et de l'oppression commune à laquelle il est confronté. En octobre 2021, Chatella et 2 autres prisonnières ont entamé une grève de la faim de plusieurs jours en solidarité avec les prisonniers et prisonnières administratives et protesté contre les conditions de détention dans les prisons de l'occupation. En représailles, elles ont été brutalisées et placées à l'isolement. Palestinienne des territoires colonisés en 1948, elle incarne l'unité des Palestiniens dans la lutte de la libération nationale. À l'intérieur des territoires de 48, en Cisjordanie, à Al-Qad, dans toute la diaspora et à Gaza. 71 femmes ont été libérées dans le cadre de l'accord d'échange arraché à la résistance, par la résistance, à la population de Gaza à la fin du mois de novembre 2023 et 71 autres ont été libérés en janvier et février 2025. Chatella et Aya Khatib, également originaires des territoires colonisés en 1948, sont les 2 seules femmes qui sont restées emprisonnées à Daimon après les 2 échanges. Ce sont elles qui tentent de prendre soin des nouvelles prisonnières en assurant leur rôle de mère, d'enseignante et de protectrice. Ces anciennes camarades nous ont envoyé plusieurs messages pour nous dire combien Chatella est appréciée et combien elle occupe une place particulière dans leur vie. Elles nous ont également dit qu'elle était l'une des prisonnières les plus touchées par les lettres envoyées du monde entier. Alors n'hésitez pas à participer aux ateliers d'écriture de lettres organisés par les collectifs de votre ville pour soutenir leur résistance quotidienne dans les prisons coloniales. Chatella était l'une des prisonnières les plus merveilleuses. Elle aimait nous aider dans beaucoup de choses. Elle nous donnait des leçons de religion et elle était très gentille. Elle aime la vie et elle est très gentille. Elle aime beaucoup aider les gens et elle est vraiment spéciale. Ce sont quelques notes, ça c'était des citations. Et il y avait des astérix dans le texte qui sont quelques notes de dinguerie. Nous avons trouvé ce texte intéressant à partager, mais nous avons certaines choses à dire par rapport à certaines tournures de phrases. Concernant le terme, très bien. Bon ben voilà, c'était les commentaires du site. Mais en tout cas, ça relaye son info, même si elle ne peut pas communiquer elle. Apparemment, elle recevait le courrier quand même. Et maintenant, elle ne le reçoit plus, mais Dismantle Diamond est en contact avec sa mère.
Oui, c'est ça. Et pour terminer cette émission, on voulait vous faire une rediffusion. on va faire ça toutes les semaines maintenant. Une rediffusion d'une émission qu'on a fait avec Asia. Qui est l'autrice du livre
Des hommes entre les murs.
Oui, voilà. Et qui est une référence si vous avez envie de lire ce livre, si vous voulez qu'on vous envoie ce livre.
Il est présenté Il est présenté dans la rediffusion. Au tout début, ça recontextualise un petit peu le bouquin, de comment elle a eu sa démarche.
Et c'était une émission qu'on a fait avec Asia le 29 octobre 2023. Bonne écoute et on vous retrouve
dans une petite trentaine de minutes.
Dans une demi-heure, c'est ça. À toutes.
À tout de suite.
Vous a présenté son livre qui s'appelle Des hommes entre les murs, qui est paru chez Agogne il y a quelques années, 2017 si je me souviens bien. Et c'est un livre qui analyse un peu le... C'est des longs entretiens, des interviews, qui analyse un peu la présence de la prison dans la vie quotidienne des Palestiniens. Et comme c'était un peu en rapport avec l'actualité, on a voulu lancer cette interview avec Asia, qui nous raconte son livre, et après qui revient un peu sur la situation actuelle en Palestine et aussi en France depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas. Elle revient sur plusieurs trucs. On voulait vous donner quelques dates pour être sûr dans tout ce qu'elle raconte. Elle parle beaucoup notamment des accords d'Oslo. C'est donc une sorte de reconnaissance mutuelle entre les deux autorités. Ça a eu lieu en 93. Elle parle aussi de la première intifada, qui a démarré en 87 et qui a débouché sur les accords d'Oslo en 93. Et elle parle aussi de la deuxième intifada, qui a eu lieu en septembre 2000. Ça, c'est pour poser un peu des dates. Et elle parle bien sûr du 7 octobre, qui est l'attaque du Hamas, et depuis toute la revanche israélienne qui a lieu, en tout cas de l'armée israélienne. On lance directement l'interview maintenant. Et on revient d'ici une trentaine de minutes pour en reparler un peu.
En ce moment, je suis en train de faire une thèse sur la résistance des femmes prisonnières palestiniennes dans les prisons israéliennes et en particulier sur le système pédagogique clandestin mis en place par ces femmes depuis 67 jusqu'à aujourd'hui. Et je fréquente la Palestine depuis 2011. J'ai fait plusieurs séjours de 3 mois parce que pour des questions de visa depuis 2011, toujours dans le même village, Nabi Saleh, toujours dans la même famille. Et justement, et le livre, et donc j'ai publié un livre, Des hommes entre les murs, qui était issu de mon mémoire de master sur les hommes prisonniers et en particulier dans le village de Nabi Saleh. Et donc, déjà, l'idée du livre c'était un peu de rendre les témoignages des prisonniers et des quelques prisonnières des différentes générations, les protagonistes du livre, et pas les considérer comme des sources pour les sciences humaines. Du coup, dans le livre, je fais une introduction où je montre un peu le contexte, et puis je laisse plutôt la parole aux personnes de Nabi Saleh, qui, d'une certaine façon, dialoguent entre elles en racontant leur expérience des prisons, les évolutions, les différentes étapes, et aussi l'impact de la prison sur la famille, sur les familles des prisonniers. Parce que, donc en Palestine, depuis 1948, donc depuis la création de l'État d'Israël et l'expulsion des Palestiniens de leurs terres, il y a environ 1 million de Palestiniens qui sont passés par les prisons israéliennes, ce qui est plus ou moins le 40% de la population masculine. Les femmes, tout en ayant participé depuis le début à la lutte contre la colonisation israélienne, elles ont été moins ciblées par les campagnes d'arrestation, mais au moins depuis 67, donc, parce qu'avant, avant, il n'y a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé de source qui parle d'arrestation avant 67, il y a environ 16 000 femmes qui sont passées par les prisons israéliennes. Et donc la prison n'est pas une expérience marginale en Palestine, mais c'est vraiment quelque chose qui concerne toute la population, directement, indirectement, parce que plus ou moins dans chaque famille palestinienne, il y a minimum un membre qui est passé par les prisons. Et donc c'est vraiment, la prison c'est vraiment quelque chose qui touche toute la population. L'État israélien utilise donc la prison comme, enfin la prison a un rôle central dans la gestion coloniale de la population de la part de l'État israélien. Et c'est aussi un laboratoire où ils mettent en pratique des techniques de répression, des techniques de contrôle, des techniques de torture vis-à-vis de la population qui après peuvent vendre aussi dans le monde occidental quand un prisonnier, Salah Hamouri, un prisonnier franco-palestinien qui a été déporté, expulsé d'Israël, qui lui a enlevé sa nationalité israélienne parce qu'il habitait à Jérusalem et donc il a pu expulser. Salah Hamouri, il a présenté un film au Bomet et il racontait aux prisonniers qu'un jour il s'était réveillé, il n'y avait plus de menton dans la prison israélienne dans laquelle il était et ils lui ont dit que tous ces mentons étaient allés faire des formations pour les mentons de Bomet. Donc c'est des techniques, c'est des techniques répressives et coloniales qui sont pratiquées dans les prisons et qui puis sont exportées comme toutes les techniques des répressions, des manifestations, des contrôles qui sont après justement vendues par les généraux israéliens. Il y a tous les années, hein, par exemple au Bourget, quand il y a les salons militaires, il y a des officiers israéliens qui vendent différents types de techniques des contrôles de population, des répressions, etc. La prison a un rôle central donc, dans cette gestion coloniale de la population et en même temps, ça a été réinvesti et redéfini par les prisonniers et les prisonnières palestiniens comme un laboratoire aussi intellectuel, politique, révolutionnaire. Et c'est dans les prisons, à différentes époques de l'histoire, et donc il y a des changements évidemment, mais c'est dans les prisons qui sont nés par exemple les leaders de la révolte de la première intifada, et le lien entre le dedans et le dehors est toujours très fort. Et c'est aussi dans différents moments clés de l'histoire palestinienne, comme quand il y a eu justement cette séparation en 2006 entre le Fatah et le Hamas, le mouvement des prisonniers a sorti un document qui appelait à l'unité en nom de la lutte contre la colonisation et l'occupation et revendiquer leur identité donc des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre dans une sous occupation coloniale avant que toute appartenance partitique.
Comment ça se passe justement comment se font ces liens intérieur-extérieur et qu'est-ce qui permet au sein des prisons aux prisonniers de pouvoir se les réapproprier comme ce laboratoire justement d'expérimentation politique?
Déjà, il y a une grande porosité entre le dedans et le dehors parce que justement, il y a beaucoup de prisonniers qui font des allers-retours en prison. Un des protagonistes de mon livre, Bassim, chez qui j'habite, il a été arrêté 10 fois dans sa vie. Et donc, il a connu un peu toutes différentes époques. Il a été arrêté pendant la première intifada, pendant la deuxième intifada, après les accords d'Oslo, pendant la deuxième intifada, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de prisonniers qui rentrent et sortent des prisons. Il y a aussi des moyens que les prisonniers, des moyens qui changent à chaque fois de faire sortir, de communiquer, de faire sortir même des livres, des romans, des lettres entre le dedans et le dehors à travers des voies différentes. Il y a la radio justement qui est un rôle fondamental dans les prisons palestiniennes. Notamment pour les femmes, parce que les hommes, ils ont pu faire rentrer des téléphones en clandestinité, etc. Les femmes, beaucoup moins. Et depuis quelques mois, il y a des téléphones, enfin des cabines, où elles peuvent appeler une fois par semaine. Mais sinon, la radio qui s'appelle Sot al-Asra, que ça veut dire la voix des prisonniers, c'est une radio qui est écoutable donc, dans les différentes prisons israéliennes et où il y a... c'est toute une... C'est pas une émission, c'est vraiment une chaîne radio dédiée aux prisonniers avec plusieurs émissions. Il y a une émission dans laquelle les familles parlent aux prisonniers. Beaucoup d'émissions dans lesquelles il y a les anciens camarades des prisons qui leur laissent des messages. Et notamment, par exemple, en 2011, quand il y a eu un grand échange de prisonniers avec Gilad Shalit, les femmes l'ont appris à travers la radio, parce que c'est une maman qui a pu leur dire, en utilisant un langage en code, codifié, qu'elles allaient être libérées. Du coup, la radio, par exemple, ça a un rôle très important dans les prisons. Et puis voilà, il y a des voies de communication quand il y a les déplacements des prisonniers dans les tribunaux, etc.
Tu dis dans ton livre que justement la prison c'est vraiment constitutif un peu de la culture palestinienne, musique, poésie, écriture, que c'est vraiment un truc qui est présent. Moi j'avais peut-être juste une question aussi pour poser les choses un peu clairement. Tu parles de gestion coloniale de la population. Mmh. Les prisons où sont enfermés les Palestiniens, les Palestiniennes, c'est pas les prisons où il y a des Israéliens et des Israéliennes, c'est des prisons séparées.
Alors, non, au début, les Israéliens ont construit, ont élargi, ont construit les prisons là où il y avait déjà les prisons du mandat, donc de la colonisation britannique. Ils ont repris des anciens bâtiments et puis ils en ont construit d'autres. Le système israélien pour juger les Palestiniens, c'est un système qui crée et qui a créé une sorte d'apartheid légal parce que sur le même territoire, deux populations sont jugés par deux systèmes juridiques différents. Tous les Palestiniens qui habitent en Cisjordanie ou à Gaza, et même certains Palestiniens qui ont, Palestiniens des 48, donc les Palestiniens qui ont la carte d'identité israélienne, qui habitent dans ce qui est maintenant Israël, sont jugés par la cour militaire, où donc le procureur, les juges sont des militaires. Et alors que les colons et tous les Israéliens, mais donc les colons aussi qui habitent vraiment à quelques kilomètres des Palestiniens, sont jugés par la justice civile. Les Palestiniens peuvent être arrêtés à partir de l'âge de 12 ans. Il y a par exemple le cas d'un jeune Palestinien, Ahmad al-Masra, qui a été arrêté à 12 ans, qui a développé à cause de la prison des troubles psychiques et qui donc, au lieu d'être libéré, a été mis en isolement. Et là, ça fait, il est en prison donc depuis 2016, je pense. Et par exemple, il ne va pas être libéré malgré les appels de la famille. Alors que pour les Israéliens, les enfants israéliens ne peuvent pas être arrêtés à partir de l'âge de 12 ans. Et le taux de culpabilité pour la population pour les Palestiniens, c'est du 99% de la population. Cette cour militaire israélienne s'autogère, s'autofinance, ne dépend pas du gouvernement parce qu'il a, développé tout un système d'amendes en plus des peines et un système de négociation. En sachant que le taux de culpabilité est à 99%, souvent il propose une négociation de la peine, un aménagement de la peine, qui donc permet de payer des grandes sommes d'argent pour pouvoir sortir. À certaines époques, par exemple pendant la première intifada, c'était boycotté et donc les gens choisissaient de rester en prison. Au fur et à mesure, surtout quand il y a des arrestations répétées des personnes qui, par exemple, des jeunes qui sont le soutien économique principal de la famille, finalement, à travers aussi des collectes, à travers aussi un système solidaire, les amendes sont payées et donc c'est à travers ces amendes que ce système s'autofinance.
Généralement, c'est quoi les motifs d'arrestation qui sont présentés devant le tribunal militaire ?
Les motifs d'arrestation sont très variés, peuvent aller donc d'attaques armées le fait d'avoir lancé des pierres lors des invasions de l'armée israélienne dans les villages, mais ça peut aussi être pour des posts sur Facebook, pour des messages, par exemple. Il y a une femme, Darin Tatour, c'est une poétesse palestinienne mais qui habite en Israël, qui a écrit un poème sur Facebook, je pense, et puis elle l'a diffusé. En tout cas, elle a écrit un poème qui s'appelait « Résiste, mon peuple ». Et donc, elle a passé 8 mois de prison et 3 ans avec bracelet électronique pour ça. Il y a des arrestations, il y a eu des arrestations d'étudiants, il y a beaucoup d'arrestations d'étudiants qui font partie des syndicats d'étudiants, qui font donc des activités avec les étudiants et les étudiantes. Et puis, certains sont arrêtés pour faire partie d'organisations, de partis politiques qu'Israël a toujours laissé dans la liste des organisations terroristes, qui sont tous les partis palestiniens, même celui avec qui il a négocié les accords de paix. En fait, ça se base aussi, le système juridique israélien pour juger les Palestiniens, se base sur le système des aveux. Et du coup, en fait, ça suffit que quelqu'un avoue que un autre a participé. Comment dire, ça se base vraiment sur le fait de faire avouer des personnes sur soi-même et sur les autres. Et ça suffit pour mettre quelqu'un en prison. C'est la seule preuve nécessaire. Et donc, il y a donc des formes de torture, à la fois physique, à la fois corporelle, à la fois psychologique, pour extorquer ces aveux sur la base duquel donc les personnes sont arrêtées. Quand j'étais en Abyssal la première fois, ils ont arrêté un enfant de 14 ans, ils lui ont fait signer, après deux nuits de torture, un papier marqué en hébreu qu'il ne comprenait pas, dans lequel il avait marqué en arabe que deux personnes l'attendaient dehors. Et en fait, ce papier en hébreu était des accusations contre ces deux autres personnes qui ont passé un an et demi de prison suite à ça. Et c'est pour ça aussi que la prison et les arrestations, c'est aussi un moyen de récolter des informations sur la population, d'essayer de créer des collaborateurs à travers du chantage, par exemple, en proposant d'autoriser la famille malade à aller en Israël à se soigner, donc de donner le permis, etc. Ou ce qui s'est passé récemment à Naplouse, en faisant du chantage avec des prisonniers, des personnes qui sont homosexuelles, en faisant du chantage de diffuser des photos, de diffuser ces relations intimes dans leur propre famille et leur propre société pour obliger quelqu'un à devenir un collaborateur. Sur les prisons, à partir de 2000, toutes les prisons ont été déplacées sur le territoire israélien. Donc tous les Palestiniens sont emprisonnés sur le territoire israélien. Bon, déjà ce qui est interdit, selon la Convention de Genève, mais on n'en est plus à ça. Mais aussi, ça fait en sorte que donc, toutes les personnes qui doivent aller visiter leurs proches en prison doivent demander un permis pour y aller, un permis aux autorités israéliennes. Et pour des raisons de sécurité, en fait, les hommes entre 15 et 50 ans et aussi ceux qui ont quand même des membres de la famille impliqués dans la politique ou prisonniers sont souvent interdits pour des raisons de sécurité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux où c'est essentiellement les femmes qui peuvent, qui donc prennent en charge tout le suivi des proches, à la fois avec les avocats, à la fois donc toutes ces visites organisées par le Croissant Rouge, ce qui veut dire partir à 14h du matin, faire des heures et des heures de route à travers des checkpoints, etc., pour 40 minutes de visite, et qui peuvent être annulées à la dernière minute pour des punitions. Et du coup, toutes les prisons donc, sont en Israël. Il y a des prisons où il n'y a que des Palestiniens, mais il y en a d'autres où il y a des quartiers pour les Palestiniens, des quartiers pour les Israéliens, et notamment les femmes, vu qu'elles étaient moins. Elles ont pu être séparées des femmes des droits communs juives israéliennes après des luttes, des grèves de la faim, parce que aussi comme forme de pression, de pression et de punition, ils utilisent, donc par exemple maintenant, après les événements du 7 octobre, il y a la représentante des femmes prisonnières qui a été mise dans une prison avec les prisonnières israéliennes des droits communs et en isolement de toutes les autres prisonnières palestiniennes. À partir des années 70, dans les prisons israéliennes, les prisonniers commencent à être de plus en plus nombreux et donc commencent à s'organiser. Au début, c'est pour des luttes pour les conditions matérielles, donc pour avoir des matelas, pour avoir des couvertures, pour avoir surtout du papier et un stylo et des stylos. Parce que par exemple, le premier livre qui a été créé dans les prisons israéliennes, ça a été par des Palestiniens, ça a été écrit sur, sur l'emballage de la margarine, en utilisant ça comme page, et puis en utilisant le seul crayon qui passait vraiment de cellule en cellule, et puis elle a pu sortir clandestinement. Et donc, autour de ces luttes pour améliorer les conditions matérielles, ce mouvement des prisonniers et des prisonnières s'est structuré et puis a pu commencer à se structurer, à s'organiser. Donc chez les hommes, par exemple, à partir des années 80, ils ont obtenu la possibilité d'être séparés selon leur affiliation politique. Donc il y avait la cellule du Hamas, la cellule du Front Populaire, la cellule du Fatah, etc. Et puis, en fait, toutes les différentes sections s'organisaient. Il y avait à la fois, ils ont écrit une sorte de règlement, une constitution de la prison. Il y avait différents comités. Il y avait à la fois le comité qui s'occupait de l'accueil des prisonniers pour expliquer un peu les règles de la prison. Il y avait des élections. Il y avait le comité, les comités éducatifs qui donc. Où il y avait à la fois des sessions, des cours communs pour les prisonniers et pour les prisonnières et des cours spécifiques aux différentes organisations. Et puis il y avait justement l'élection à la fois d'un comité qui jugeait les affaires internes, ce qu'ils appelaient un tribunal révolutionnaire, qui pour ne jamais faire appel à l'autorité pénitentiaire, et pareil, une représentante des prisonnières et un représentant des prisonniers qui était le seul qui pouvait parler avec l'administration pénitentiaire pour éviter justement une individualisation et vraiment porter une voix collective des prisonniers et des prisonnières. Donc chez les femmes, c'était un peu différent parce qu'en étant moins, la différenciation d'affiliation politique était moins forte et du coup elles s'organisaient beaucoup plus ensemble, ce qui a permis par exemple, et ça j'aimerais bien en parler parce que c'est pas très mentionné même dans l'histoire palestinienne, que donc à la fin de la première intifada, il y a eu les accords d'Oslo qui étaient soi-disant des accords de paix mais qui ont juste favorisé la colonisation, etc. Mais donc dans les accords de paix, normalement, il y a la libération de tous les prisonniers. Et donc il y a eu dans le cadre des accords d'Oslo toute une négociation pour la libération des prisonniers. La majorité des hommes sont sortis, mais il y a des hommes qui sont restés. Et quant aux femmes, il y a des femmes de toutes les différentes organisations politiques qui étaient présentes à ce moment et qui ont un peu me le raconté un peu, un peu de la même façon. Les femmes, quand le directeur de la prison est rentré dans la cellule et leur a dit « Demain, il y aura la libération de toutes les femmes, sauf 5. » Et c'était 5 femmes qui avaient tué des soldats israéliens dans différentes organisations politiques. Et donc les prisonnières, elles se sont réunies toute appartenance politique confondue, et elles ont décidé qu'elles n'allaient pas sortir tant que toutes les femmes, si la libération n'était pas pour toutes, parce que c'est une lutte collective et donc la libération devait être collective. Et donc il y avait même des femmes qui étaient condamnées à 15 ans qui ont accepté de rester et de purger 15 ans pour que toutes les femmes soient libérées. Et ça a été une lutte qui a duré 16 mois, dans laquelle elles se sont enfermées dans les cellules, elles étaient à 30 dans une cellule pour 8. Toutes organisations confondues, toutes générations confondues, elles ont pris des décisions de façon horizontale. Là, pour le coup, il y avait moins cette histoire des représentantes. C'était vraiment toujours des discussions entre toutes les différentes appartenantes aux différentes organisations. Et à la fois les Israéliens et à la fois l'autorité palestinienne qui était revenue et qui commençait à asseoir son pouvoir ont essayé de les sortir par la force, mais elles n'ont pas réussi. Et donc, elles ont gagné, et donc elles ont été toutes libérées. Et donc en 97, il n'y avait plus une femme, il n'y avait plus personne, plus aucune femme qui était dans les prisons israéliennes. Et beaucoup d'entre elles disent, si les hommes avaient suivi notre exemple, peut-être qu'il n'y aurait plus de prisonniers, en tout cas après les accords d'Oslo. Après, évidemment, les arrestations ont repris très vite, et pendant la deuxième intifada, il y en avait... Alors, dès le 8 octobre, il y a eu des formes de punition collective de différents types. Il y a eu d'abord une attaque des forces spéciales israéliennes dans la prison, donc où donc ils ont frappé les femmes prisonnières, qui sont toutes en ce moment donc dans la prison de Damon, que c'est une prison qui était un dépôt de tabac à l'époque de la colonisation britannique, qui donc est pas du tout faite pour accueillir des êtres humains, parce qu'elle est faite pour rester humide. Et donc c'était une prison qui avait été fermée pour raisons sanitaires, mais a été réouverte pendant la deuxième intifada parce qu'il y avait trop de prisonniers. Et donc, suite à une révolte des femmes qui ont protesté, parce que en fait, il y avait dans la prison précédente, il y avait des caméras qui étaient allumées constamment dans tous les espaces, même aux toilettes, même dans la cour, et que donc les femmes voilées ne pouvaient jamais enlever leur voile parce qu'elles savaient que derrière les caméras il y avait des hommes, et donc elles n'allaient pas aux toilettes, elles n'enlevaient jamais leur voile, donc elles ont protesté pour qu'on fasse une punition collective, elles ont toutes été amenées à Damon. Donc dans cette prison, les soldats ont agressé les femmes et puis ont isolé la représentante qui a été mise dans une autre prison en isolement, donc isolée de toutes les autres femmes, mais dans une prison, je pense dans la section où il y a les détenus israéliennes des droits communs. Et en même temps, en fait, je pense que cette attaque envers les prisonniers et les prisonnières, c'est aussi, ça rentre évidemment dans une forme de punition collective, mais c'est aussi parce que un des objectifs de l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre, de l'opération qui a eu lieu le 7 octobre, c'était l'échange des prisonniers et des prisonnières. Et donc échanger les prisonniers israéliens qui sont en ce moment dans la bande de Gaza avec tous les prisonniers et les prisonnières palestiniens. Et il faut savoir que dans tous les échanges des prisonniers, les femmes sont toujours prioritaires par n'importe quelle organisation soit à la base de cet échange. Donc peut-être, peut-être c'est aussi pour ça que La première forme de punition collective est tombée directement sur les prisonnières. Et évidemment, sur les prisonniers, ils ont été privés d'électricité et d'eau. Il y avait des prisonniers qui étaient pris dans des chambres de torture on leur a cassé les jambes et les bras. Il y en a qui revenaient de la torture et ses camarades ne pouvaient... Il était méconnaissable, ils ne reconnaissaient pas son visage. Et il y a aussi des cas, depuis le 7 octobre, il y a eu 1220 arrestations. Donc il y a des campagnes d'arrestation très très larges en Cisjordanie. Les prisonniers de Gaza, tout comme les travailleurs de Gaza qui avaient des permis pour travailler en Israël, les travailleurs de Gaza qui avaient des permis pour travailler en Israël ont été arrêtés. Mis en prison juste parce qu'ils étaient de Gaza. Il y en a qui se sont réfugiés en Cisjordanie, mais j'ai l'impression que certains ont été arrêtés par l'autorité palestinienne, parce que j'ai oublié de dire que le produit des accords d'Oslo, c'est aussi la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et les Israéliens. Ce qui veut dire vraiment une collaboration. Il y a des prisonniers qui sont arrêtés d'abord par l'autorité palestinienne et puis donnés aux Israéliens. Et donc il y a toute cette coopération sécuritaire contre laquelle beaucoup de Palestiniens dénoncent, contre laquelle beaucoup de Palestiniens se battent. Il y a eu beaucoup d'arrestations des membres du Hamas, même avant le 7 octobre, de la part de l'autorité palestinienne. Enfin, j'ai lu en tout cas sur des médias arabes que certains de ces travailleurs de Gaza ont été arrêtés aussi par l'autorité palestinienne. Les deux dernières années ont été des années les années les plus meurtrières depuis la deuxième intifada en Palestine. Il y avait des larges campagnes d'homicides extrajudiciaires, d'exécutions extrajudiciaires.
Sans jugement,
ouais. C'était plutôt du coup tuer ceux qui étaient considérés les leaders des différentes formes d'organisation de résistance. Et aussi un déchaînement des colons, notamment avec le nouveau gouvernement qui est fasciste et sioniste comme tous les autres, mais le déclare et le revendique plus clairement. À Gaza, depuis le 7 octobre, c'est pas pour donner des chiffres, mais en tout cas, il y a eu environ 5000 morts, sans compter tous les corps qu'on n'a pas encore pu trouver sous les décombres. Et
sachant que là, on est lundi 21 octobre, 22 octobre.
Oui. Et
23
octobre. 23 octobre. Ça, c'est un peu la situation là-bas. Et je pense que peut-être t'as suivi un peu ce qui s'est passé en France en termes de soutien et de comment aussi tous ces soutiens-là ont été aussi réprimés.
Oui, en France, il y a une répression qui a quand même, dans les dernières années, elle a toujours été présente. Je me souviens de la dernière manifestation en soutien des Palestiniens bombardés justement à Gaza, avait été interdite et violemment réprimée. Mais là, je pense qu'il y a une nouvelle étape qui a été franchie, vraiment de répression de toutes formes, de solidarité et de soutien. Tiens à la Palestine, au peuple palestinien, aux formes de, mais même pas, enfin là ça va même pas aux formes de résistance du peuple palestinien, enfin c'est vraiment, il reprime même le côté un peu victimisant humaniste de il y a 4000 morts, enfin c'est en fait
une manifestation pour la paix, quoi.
Oui, c'est ça, c'est
interdit, quoi.
Il y a eu plusieurs rassemblements qui ont été appelés, qui ont été interdits. Il y a eu plusieurs arrestations dans lesquelles des jeunes femmes ont passé 24 heures ou 48 heures de garde à vue. Pour certaines d'entre elles, il y a eu des perquisitions chez elles, en essayant clairement de faire le lien et dans l'interrogatoire et dans les perquisitions entre le soutien à la Palestine et une forme de radicalisation, enfin en faisant vraiment le parallèle Daesh, Hamas, c'est la même chose, et du coup, enfin l'apologie du terrorisme était toujours sortie comme
c'est que vous êtes en train de construire une narration, ouais, autour des personnes en prenant en photo des Corans, des religieux pour construire un peu une narration.
Et aussi dans le milieu, en vrai aussi dans le milieu académique, il y a eu des formes de censure très graves qui viennent d'être dénoncées dans un document qui vient de sortir, où des chercheurs et des chercheuses ont été dénoncés par les collègues, risquent leur poste pour avoir relayé des communiqués de soutien, pour s'être exprimé sur la Palestine en soutien du peuple palestinien. Et aussi il y a des formes de censure pas non plus très voilées qui vient vraiment au niveau de l'université, où il y a une sorte d'appel à délation des initiatives qui pourraient soutenir, qui pourraient être assimilées à de l'antisémitisme et un soutien et à l'apologie du terrorisme. Donc il y a même ce qui n'est pas le plus important, mais qui est quand même révélateur de ce qui se passe aussi dans la répression, qui se passe aussi dans la rue, donc des personnes qui s'expriment sur la Palestine et qui sont accusées, alors qu'ils le font en connaissant l'histoire, en connaissant le contexte, etc., sont accusées d'apologie du terrorisme. Et tel est le cas aussi de Mariam Aboudak, qui était, elle n'est pas, c'est une femme palestinienne de Gaza. Elle avait été invitée depuis longtemps pour faire une tournée en France dans laquelle elle allait parler de la situation à Gaza, de la situation des femmes, parce qu'elle a créé une association qui s'occupe et qui soutient les femmes prisonnières, justement, à Gaza. Mariam Aboudak, c'est une résistante, une militante de Gaza qui appartient au FPLP, au Front Populaire de Libération de la Palestine. Donc elle est arrivée avant le 7 octobre. Elle a été accusée dès son arrivée de risque d'être une terroriste, de provoquer des risques à l'ordre public, etc. Donc à partir du 7 octobre, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été annulées par les mairies, sous pression du préfet, dans différentes villes, mais elle a toujours réussi à en faire, à le faire devant, à le faire dans un parc à côté. Récemment à Marseille, il y avait une conférence qui avait été prévue dans une salle. La salle, sous pression de la préfecture, de menaces des troubles à l'ordre public, a interdit de la conférence. Et donc il y a une autre salle qui nous a été proposée par un prêtre qui avait été en Palestine. Et donc, la conférence a pu avoir lieu. Et le lendemain, Maria Maboudak devait aller à Toulouse pour faire une autre conférence qui avait là aussi déjà été interdite avec, là pour le coup, la mairie avait fait, la mairie qui bon, est jumelée avec Tel Aviv, avait fait
un arrêté
pour interdire à la maison de quartier d'accueillir Maria Maboudak et de projeter ce film Yalla Gaza, dans lequel elle était une des femmes interviewées dans le film. L'association à Toulouse a décidé de maintenir juste la projection du film. Ça a été interdit aussi la projection du film avec plein de cartes des CRS qui ont entouré l'endroit où le film devait être projeté. Du coup, le matin, à 6h du matin, quand Mariam devait aller à Toulouse, elle a été arrêtée en sortant de la maison où elle avait été hébergée. Elle a été amenée au commissariat de Noailles. Elle a été interrogée pendant des heures. Quand elle est sortie et tout le monde lui demandait comment ça allait, elle leur a dit qu'en fait, elle avait été arrêtée quand elle avait 15 ans par les Israéliens. Elle avait passé 2 ans dans les prisons israéliennes. Et donc, c'était pas forcément l'arrestation ici, enfin une petite garde à vue qui allait lui faire peur, mais ce qu'elle n'arrête pas de répéter, c'est vraiment cette absence de liberté en France à laquelle elle ne s'attendait pas. Et donc elle disait on va organiser un mouvement de solidarité pour les Français, pour les aider à se rebeller contre leur gouvernement. Donc elle a été arrêtée suite à justement une arrêté d'expulsion signée directement par Darmanin, qui citait des propos de Mariam qui considérait comme pareil, comme sinon une apologie au terrorisme, mais quelque chose qui allait alimenter cette tension dans les climats actuels en France, dont le fait qu'elle disait qu'il faudrait faire pression sur les gouvernements français pour qu'ils fassent pression sur les gouvernements israéliens pour demander au moins un cessez-le-feu, pour arrêter l'occupation, etc., qu'il faudrait parler plus de Gaza. Et donc c'était des phrases citées par Darmanin pour justifier son expulsion. Et dans l'arrêté, il mentionnait aussi le professeur qui a été tué à Arras, dans les réseaux, comme ça.
Gros package, voilà, gros combo.
Mais la raison qui lui a permis de faire ça, c'est le fait que le Front Populaire de Libération de la Palestine, depuis les années 70, il est encore dans la liste des associations considérées comme terroristes par l'Union Européenne, par les États-Unis et par Israël. Alors qu'ils font partie de l'OLP, avec qui, encore une fois, Israël a signé des accords de paix reconnus par les États-Unis, etc., etc. Mais donc ça, c'était la raison. Donc Mariam, elle a été assignée à résidence dans un hôtel. Elle devait pointer au commissariat. Avant-hier, le tribunal administratif de Paris, auprès duquel ils avaient fait recours, a dit que l'expulsion, a annulé l'expulsion en disant que c'était une grave attente à la liberté d'expression, etc., etc. Et Darmanin, évidemment, il a fait appel, tout en sachant que donc Darmanin, dans l'arrêté d'expulsion, il voulait l'expulser à Gaza, parce que Mariam, elle vient de Gaza, elle a perdu, enfin en tout cas hier, mais peut-être cette nuit plus, elle a perdu pendant cette semaine 30 membres de sa famille sous le bombardement. Et sa maison dans laquelle elle avait écrit à la fois ses mémoires, ses travaux, elle a été bombardée aussi. Mariam, elle veut, en tout cas, elle ne veut pas rester en France. Elle veut rentrer à Gaza, mais là, c'est la police qui a son passeport aussi.
Voilà, donc c'était l'entretien avec...
Salut. On est toujours sur la courte échelle. émission contre la tôle, contre toutes les tôles. Et on vient d'écouter la rediffusion de notre émission du 29 octobre 2023 avec Asia. On va terminer cette émission. On va vous passer un petit son de fin et on envoie aussi plein de force à tous les prisonniers et à toutes les prisonnières et à tous les proches. Plein de force à vous.
Ouais, grave.
Particulièrement aux personnes dont on a lu les lettres ou les mots ou les pensées, et, mais aussi à tous les autres. Et du coup, on termine cette émission avec Malfra. De Cabra.
À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Gros pique-up à tout le monde. Wait for it. YJ Production.
Avec du sang comme c'était du feutre. Visage de coupable, là je serai pas neutre. On touche pas ta pièce, mais on peut te faire du mal pour la nôtre. Je suis qu'une mauvaise graine plantée parmi plein d'autres. La rue a fait de moi un monstre que j'ai pas voulu être. Ici y'a des sons, je veux pas crier mon mal-être. Si j'ai pas assez pour un mandat, je t'enverrai des lettres. Quand t'es masqué, je vais faire sonner l'alerte. Y'a des pointeurs en liberté, mais c'est les dealers qu'on pète. Ou des petits qui lèvent la roue sur un compète. J'ai trop de rimes, mais faut que je finisse premier de la compète. Bah ouais, qu'il faut une base solide, compacte. T'as même pas un filon, tu fais le mec rempli de contacts. Six mois que j'ai pas sorti de clip, là je vais faire un mot comme bac. Dans la cité, je suis autant grillé que la bac. Y'a que pour rapper maintenant que j'ouvre mon bec. J'aurais dû brûler les bulldozers qu'ont cassé nos immeubles. Les riches nous voient comme des pauvres, comment tu veux que je sois aimable? Vente pour prouver, voilà que je trouve ça minable. Hesse, poisse, galère, cercle, vie sur interminable. J'pensais qu'on sougeait même pas pu faire ma terminale. Y'a des junkies à livrer, des vétas à épinal. J'avais un cœur pur, on me l'a tatoué à l'opinel. On me l'a chini de sa mère, ça prend des grosses peines au parquet. J'imagine pas ce qui nous attend, jugement dernier. Y'a deux heures j'ai acheté le paquet. Tellement généreux, j'en suis déjà à la dernière. S'il faut t'allumer, je vais pas te rater comme Werner. Belgi à boss crème comme du ténène. Si t'as trop la dash, t'envoies les petits, c'est des pervers. J'aurais aucune valeur si le daron était pas sévère. Grâce à la poudre brune, certains sont devenus millionnaires en billets de 5. On est plein dans ma tête, si tu veux me faire la peau, ramène même tous tes zinc. C'est la Toulouse, rime ma gueule. Ça commet des crimes juste pour 50 euros. Ma plume a vachement mûri. Ça fait plus de 5 ans que j'ai pas croisé mon innocence. Dans mes rêves, j'noyais les ponts qu'avant l'essence. J'attire les condés et les fiat 500. La solitude c'est une maladie, j'veux pas de convalescence. Faut que tu te pètes en vacances au mois d'avril. Sinon tu vas finir en promenade comme Avril. Les ressorts du labo, pas de chez Marvel. Des connexions, elle n'a pas qu'à Marbelle. Et l'OPG avec sa gueule de guiche. Il veut s'informer auprès des gueuches. Il veut péter celui qui tient la file de gauche. Dû au manque d'argent, trop de talent qui se gâche. Après jugement, y'a trop de chicken qui se cache. Qui mérite des gros coups de crosse et des coups de scotch. En temps normal, t'es calme sous tiste, t'oses me faire des skates. Un frit sur le tum-tum casqué comme persèche. Yo, la rime, kaibetum karakolda.